Ben oui, on l'a gardé pour la fin aujourd'hui. Allons tout de suite retrouver Jérémy Filosa. Salut, Philo.
Salut.
D'abord, concernant Adonis Stevenson, oui. J'en parlais plus tôt à l'émission là, avec notre journaliste Jean-Simon Buis. Mm-hmm. Il y avait un point de presse de son médecin traitant aujourd'hui. Son état toujours considéré comme critique, mais il y a quand même de l'espoir, Jérémy.
Ben, il y a de l'espoir puisque le médecin l'a quand même clairement spécifié. C'est qu'il y avait suffisamment de signes positifs pour qu'on se dise ça vaut la peine de continuer les traitements. Parce que si à un moment donné, on voit qu'il n'y a pas de réponse du cerveau, il ne se passe rien, bien, les décisions différentes sont prises. Mais là, on est encouragé par ce que l'on voit. On pense qu'il y a bon espoir de continuer les traitements et que ça amène à quelque chose d'intéressant.
Maintenant, c'est ça. On a même dit plus de chances de rester en vie que d'en mourir.
Oui, exactement. Mais clairement, là, il nous a dit on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le monde médical. Mais oui, plus de chances de s'en tirer que non, mais aussi plus de chances d'avoir des séquelles que de pas en avoir.
Oui.
Et, tu sais, il a dit, ordinairement, les gens, malheureusement, en gardent des séquelles pour le reste de leur vie. Maintenant, on peut pas déterminer à ce moment-ci, quel genre de séquelles? Grave, pas grave? Est-ce que ce sont des séquelles qu'on peut réparer? Parce que tant il y a aussi longtemps qu'Adonis ne sera pas réveillé, on ne pourra pas vraiment juger de ce qui se passe. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'on va le savoir et on a indiqué chez les médecins que la période critique achevait. On pensait qu'on allait pouvoir peut-être être passer cette période critique dans les 48 prochaines heures. Malheureusement, on n'est pas encore rendu là. Ça va prendre encore un peu de temps et on n'a pas voulu vraiment se donner, là, donner de journée ou d'heure là, au moment où on va essayer de le sortir du coma. C'est on va vraiment continuer de le surveiller et dès qu'on voit qu'il y a des progressions, bien, à partir de ce moment-là, c'est là qu'on va prendre des décisions.
Jérémy, je ne suis pas ça d'aussi près que toi, mais rassure-moi, est-ce que ça s'est calmé un petit peu sur les médias sociaux?
Un peu. Puis je pense qu'il y a bien des gens. Moi, j'ai bloqué des gens sur Twitter parce que j'ai vu des commentaires absolument épouvantables. Puis honnêtement, j'avais pas le goût de lire ça. Donc, j'en vois moins. Je pense qu'il y a beaucoup moins de monde qui tolère les commentaires vraiment affreux et méchants à l'endroit d'Adonis Stevenson. Ce que je voudrais dire, c'est que je comprends complètement les gens qui ne veulent pas pardonner à Adonis ce qui s'est passé dans sa jeunesse. D'ailleurs, moi-même, j'ai de la difficulté à passer par-dessus ça. Mais ce que je peux vous dire et ce que je peux vous assurer en tant que journaliste qui connaît bien l'individu, c'est que il n'est plus du tout la même personne aujourd'hui. Et si je suis le père d'une de ces victimes-là, autant je suis encore fâché et je lui en veux et je ne lui pardonnerai probablement jamais, mais je suis probablement un peu plus soulagé de voir que le gars en question, il a appris sa leçon en sortant de prison, puis il s'est en allé dans une direction différente, puis qu'aujourd'hui, il fait plus de mal à aucune petite fille.
Oui.
Que de savoir que le gars, il est sorti de prison.
Puis il a recommencé.
Puis il est retourné dans ses cochonneries, puis il continue à faire la même chose à d'autres petites filles. Donc, je pense que...
Puis je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont pas capables de passer par-dessus
ben
ça et qui l'haïssent encore, mais ne serait-ce que par respect, un, pour la vie humaine, et deux, pour sa famille, retenez-vous.
Bien, ce que je peux vous dire, c'est que l'Adonis d'aujourd'hui, s'il réfléchit et il pense au Adonis d'il y a 25 ans, il n'est pas fier de lui. Parce que Adonis aujourd'hui, il y a des petites filles. Et puis, je vous jure et je vous garantis que jamais en 1000 ans, l'Adonis d'aujourd'hui agirait de cette façon-là.
Bon, on va parler de hockey un petit peu. Belle victoire du Canadien hier soir.
Oui.
J'étais évidemment déçu de mes Sénateurs, déçu de la tournure des événements. Mais donnons à César ce qui revient à César. J'ai quand même apprécié le spectacle offert par Drouin et Domi.
Ah, écoute, ça a été leur meilleur match ensemble. Puis je sais pas combien on va avoir de matchs entre ces deux gars-là. J'espère qu'on va les garder ensemble pendant longtemps.
Et moi, j'espère que les Sénateurs vont leur donner un peu moins de temps et d'espace demain soir.
Ben c'est ça. Je pense qu'ils ont beaucoup profité des largesses des Sénateurs hier soir. Sauf que pour les partisans du Canadien, ben c'est un spectacle. C'est une beauté de les voir aller. On sait que ce sont deux joueurs qui sont capables. Drouin par son talent, Domi par son énergie. Mais il faut va falloir commencer reconnaître aussi ses capacités offensives. Mais écoute, faut que je donne à Marc Bergevin ce qui lui revient parce que quand on regardait la transaction froidement, Galchenyuk contre Domi, on se disait, mais coudonc, qui va marquer des buts chez le Canadien? Domi avait connu deux saisons consécutives de 9 buts seulement. Comment Bergevin a-t-il eu le pif de se dire, si je vais chercher ce gars-là, il va redevenir le joueur qu'il était au niveau junior, alors qu'il était un joueur dominant? Je ne sais pas.
Ben, pour être honnête, il doit être lui-même un peu surpris à quel point Domi est bon cette année. Je suis convaincu qu'il était sûr que Domi serait meilleur que l'an dernier, mais peut-être pas au point où il est présentement.
Oui, non, tu as raison de le mentionner, parce que là, il dépasse toutes les attentes. Je pense qu'il est en voie de connaître une saison au moment où on se parle de 88 points. C'est absolument incroyable. Et la chimie qui existe entre ces deux gars-là, j'essaye de me faire une tête à me souvenir de deux joueurs de ce haut niveau-là qui ont joué ensemble avec le Canadien et qui ont autant, excusez l'expression, cliqué, puis j'ai de la misère. Je sais pas s'il faut que je retourne. T'sais, certains parlent de Koivu et Kovalev, mais encore là, c'était pas nécessairement deux gars qui, à l'extérieur de la patinoire, avaient une amitié comme Ondroy
et
Domi.
Ah oui, ok, ça je comprends. Ouais. J'allais dire Pacioretty, Radulov, c'était bien, mais ça a pas duré longtemps.
Ben, il y a eu une période aussi, Pacioretty avec Desharnais, ils ont quand même, je ne dirais pas faire la pluie et le beau temps, mais ils ont connu de très bons moments ensemble. Mais encore là, Desharnais n'avait pas le niveau de joueurs comme Domi et Drouin. Donc, j'essaie de penser dans ma tête à deux joueurs de talent, un allié, un joueur de centre avec le Canadien qui ont connu une aussi bonne chimie, puis j'ai de la difficulté à...
Ben écoute, Guy Lafleur avec Lemaire puis Steve Schott, c'était pas mauvais, Philo.
Ouais, puis là, tu recules loin, puis il va falloir que Domi puis Drouin en marquent des buts avant de se rendre dans cette catégorie-là, là, ça c'est certain.
Pour revenir au match d'hier, je trouve ça plate pour Chabot, ça a été un de ses pires matchs cette saison, probablement.
Ben, puis les joueurs du Canadien l'ont avoué, tu sais, ils ont dit, on a profité de certaines occasions où les défenseurs des Sénateurs se sont aventurés un peu trop loin. Il y a eu des largesses qui ont été données, plusieurs 2-1, et le Canadien en a profité. Mais moi, j'aurais pas de misère à croire que demain soir, on se retrouve avec un résultat opposé à Ottawa. Le Canadien est capable du meilleur comme du pire, et les Sénateurs
même
aussi.
Même chose.
Exactement.
Ben, j'espère que tu as raison, puis j'espère que tu es meilleur. C'est une prédiction, ça, Philo?
Je pense que oui. Moi,
bon,
j'espère que
tu es meilleur dans tes prédictions que notre ami Michel Langevin, qui avait prédit, lui, une victoire des Sénateurs 4-1 hier soir au Centre Bell. Il nous a porté malheur.
Oui, je pense que ça va être l'effet miroir là, qu'on va voir dans le match de demain soir à Ottawa. Là, ça fait un bon bout de temps quand même que le Canadien n'a pas connu deux très bons matchs consécutifs.
Bon, en terminant, un mot sur l'Impact qui vient de signer un certain Harry Novillo. C'est qui, lui?
Ben, Harry Novillo, là, c'est un joueur que Rémi Garde a formé à l'époque où il était avec l'Olympique Lyonnais. Un jeune joueur bourré de talent à l'époque, mais qui malheureusement pensait être rendu alors qu'il n'était pas encore rendu. Donc, c'est un gars qui n'avait pas nécessairement le cœur à l'ouvrage, mais il avait peut-être la tête ailleurs.
Ah, un genre de Galchenyuk du soccer?
C'est ça, exactement. Puis Rémi Garde, il est venu, Novillo, s'entraîner avec l'Impact cet été. Et Rémi Garde nous avait dit justement ça, que c'était un gars bourré de talent, mais qui n'avait pas la tête à la bonne place. Mais que là, il est rendu à 26 ans. Il est marié maintenant. Et Rémi Garde dit, après l'avoir rencontré, je me rends compte qu'il a pris une certaine maturité. Puis avec le talent qu'il a, je pense que c'est un joueur qui va pouvoir nous aider. C'est un ailier qui tire du pied droit, mais qui préfère jouer sur la gauche. Là, le problème, c'est qu'à gauche, il y a Piatti, fait que je pense qu'il va falloir qu'il prenne son mal en patience s'il veut jouer là. Mais, tu sais, il a dit qu'il était ouvert à jouer à d'autres positions. Ce qui a été un peu surprenant pour moi, c'est de voir que l'Impact lui a donné 2 années garanties plus 1 année d'option. J'aurais plus pensé qu'on lui aurait donné 1 année garantie plus 2 années d'option. Mais bon, regarde, on a cru bon lui donner 2 années immédiatement en espérant, en se croisant les doigts, que le pif de Rémi Garde est aussi bon que celui de Bergevin dans cette décision et que ce gars-là aura pris du sérieux et qu'il va pouvoir aider l'Impact à marquer des buts la saison prochaine.
À suivre. Merci, Philo.
Voilà.
Bonne soirée.
Bye.